Écoutez aujourd'hui une émission présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, ravi de vous retrouver au travers de cette émission. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous allons mettre le focus sur les paroles d'un mourant unique en son genre. Sa naissance a été exceptionnel, mais pas que. Voici un extrait d'un texte écrit par un auteur inconnu, texte intitulé « Le Christ incomparable ». Je lis « Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme, afin que nous puissions devenir fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Une fois seulement, au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa province. Il n'a pas eu les avantages d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence, et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a commandé la nature, marché sur les vagues, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, et pourtant, le nombre des mélodies dont il est aujourd'hui le thème est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école et pourtant, toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre des cœurs brisés par la souffrance qui depuis 20 siècles ont trouvé auprès de lui la guérison. Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil. Et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et, de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royale pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche, et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre ? Demandez-le à Marie, demandez-le au berger et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pu le tuer et Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour l'amour de ton âme égarée, ô mon frère. Il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé, sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur les sentiers du doute où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché et tu ne le savais pas. Maintenant, sa voix te parle. Ouvre-lui ton cœur. Ne tarde point. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait t'entendre l'appeler « mon sauveur ». Fin de citation. Bien-aimé, as-tu entendu sa voix, comme cet auteur inconnu vient de le dire? Ou es-tu encore en train de t'interroger, comme les disciples l'ont fait, étonnés et émerveillés, alors que Jésus a calmé la tempête et les a sauvés de la noyade? Ils se sont exprimés par cette question, je cite, « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Matthieu chapitre 8, verset 27. Comme annoncé, notre projecteur aujourd'hui est orienté vers le mont Golgotha où, pour la circonstance, trois croix sont dressées. Pour mémoire, je cite Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Bien-aimés, on prête beaucoup d'attention aux paroles d'un mourant, surtout s'il fait mention d'un trésor caché dans le champ, comme le laboureur de la fable, évoqué par Jean Racine. Mais il y a plus important encore, quand ces paroles peuvent nous amener à saisir la vie éternelle, dont l'Évangile déclare qu'elle est un don gratuit de Dieu. Alors suivons la voie pour recevoir ce don gratuit. Écoutons avec attention les paroles prononcées par Jésus lors de sa crucifixion, car ce mourant exceptionnel, ressuscité 3 jours après au matin de Pâques, est toujours vivant aujourd'hui. Oui, celui qui a donné sa vie à la croix pour expier nos péchés est, redisons-le, toujours bien vivant aujourd'hui. Alléluia. Elles sont au nombre de 7, les paroles prononcées par Jésus mourant au calvaire. Nous trouvons la première dans Luc chapitre 23, verset 34. Je lis. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus prie pour ses bourreaux. À la haine et aux railleries qui se déchaînent contre lui, Jésus répond par une manifestation d'amour. N'a-t-il pas dit, lors du sermon sur la montagne, je cite, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent ». Maintenant, il le fait. Il montre l'exemple. Si les bourreaux ne savent pas ce qu'ils font, l'Évangile nous le révèle. Ils accomplissent le plan de salut de Dieu à l'égard de quiconque croit. Nous préciserons cela dans quelques instants. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, je lis, Jean chapitre 19, verset 27, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et l'Évangile donne la précision suivante, je cite, « Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. » Face à cette iniquité, à cette injustice criante, Marie, sa mère plus que quiconque, est dans une grande souffrance, comme si une épée lui transperçait l'âme. Elle est en train de vivre, de subir, ce que le vieux Siméon a prophétisé lorsqu'avec Joseph son époux, elle s'est retrouvée au temple 3 décennies plus tôt pour présenter l'enfant au Seigneur. Je cite, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. » il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Luc chapitre 2, verset 34, Bible français courant. La douleur te transpercera l'âme. Jésus sait mieux que quiconque combien grande est cette souffrance. Jésus s'adresse à sa mère de la même manière qu'aux noces de Cana, lorsqu'elle lui avait dit « Ils n'ont plus de vin ». Je cite « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Jésus signifie à Marie qu'elle a été un instrument béni entre les mains du Seigneur. Et quel instrument, puisque toutes les générations la disent bienheureuse. Mais elle n'a pas d'autre part à la mission, au service de Jésus le Sauveur. Il est très instructif de réfléchir à tout ce que l'Écriture nous dit concernant Marie, la mère de Jésus, car la tradition a fini par nous éloigner de l'Évangile. L'Écriture affirme, je cite, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Notons qu'au pied de la croix, Jésus confie sa mère aux disciples qu'il aimait, et non l'inverse. Et, je cite, « Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. » Après cette pause musicale, nous entendrons la parole de salut que Jésus adresse à un criminel. Restez avec nous.
Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait. Et un innocent, quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Expiant nos péchés, tout est accompli, l'agneau est immolé, tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie. C'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi.
Un écriteau au-dessus de la tête de Jésus indique, je cite, celui-ci et le roi des Juifs. De part et d'autre de Jésus, deux malfaiteurs subissent la même peine. Dans un premier temps, les deux font chorus avec tous ceux qui insultent Jésus. Puis, l'un des deux interpelle Jésus dans une sorte de provocation, je cite, « si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprend en lui disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Après cela, il s'adresse à Jésus en ces termes, je cite, « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Quelle dose de foi ! Lequel d'entre nous miserait un seul sou sur un mourant ? Car, dans une telle extrémité, il n'y a plus rien à espérer. Récemment, nous avons évoqué cette parole de l'Ecclésiaste, je cite Ecclésiaste 4,13, « Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un vieux roi stupide qui refuse les conseils. Et quand la mort est assurée et imminente, quel espoir reste-t-il ? Mais la foi permet de voir au-delà de ce qui est visible. Elle permet de voir ce qui est invisible, c'est-à-dire la réalité de Dieu. Cet homme croit à la déclaration portée sur l'écriteau. Rappelle, celui-ci est le roi des Juifs. La réponse de Jésus ne tarde pas. Luc chapitre 23, verset 43, je cite, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quoi ? Un meurtrier directement au paradis ? Oui, Jésus l'a dit. Et l'Écriture affirme, je cite, « Celui-ci est le roi des Juifs. » En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Pour la parole suivante, une précision horaire nous est donnée. Je lis. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà plusieurs heures maintenant que Jésus est cloué sur le bois. Il est affaibli. Cependant, il crie d'une voix forte, « mon Dieu !» Le vocable « Père » que Jésus employait très souvent irritait les chefs religieux, car non seulement Jésus agissait contre la loi du sabbat, mais en disant que Dieu était son propre Père, il se faisait ainsi l'égal de Dieu. À cet instant précis, ce n'est plus « Père », mais « mon Dieu ». Le regard du Père se détourne. La communion qui existe de toute éternité est rompue. Que s'est-il passé ? Jésus s'est chargé de nos péchés. Lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour notre salut. Le prix payé dépasse l'entendement. Comme le déclare l'apôtre Pierre, nous avons été rachetés, non par des choses corruptibles telles que l'argent ou l'or, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. C'est pourquoi Dieu donne gratuitement le salut à tout individu qui se repent et qui croit. La cinquième parole de Jésus prononcée sur la croix est celle-ci, je cite, « J'ai soif », Jean chapitre 19, verset 28. Jésus a d'abord refusé de boire le vin mélangé avec de la myrrhe. Cette boisson que les soldats ont voulu lui donner devait servir à atténuer ses souffrances. Mais maintenant, Jésus dit, j'ai soif, parce qu'il sait que désormais, l'acte expiatoire est fait. Et ce verset mentionnant cette parole de Jésus, j'ai soif, nous éclaire sur la raison de cette demande. Je lis la suite du texte. Pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout. Jean chapitre 19, verset 28. Traduction œcuménique de la Bible. D'autres versions traduisent par, je cite, « afin que l'écriture soit accomplie ». J'aime beaucoup une telle précision. Cela confirme ce que Jésus a dit lors du sermon sur la montagne. Je cite, « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » À maintes reprises, nous trouvons cette précision. Exemple, après avoir crucifié Jésus, les soldats ont pris ses vêtements et en ont fait 4 parts, une pour chaque soldat. Ils ont aussi pris sa tunique qui était sans couture d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se sont dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui elle sera. Les soldats ont agi sans malice, inconsciemment. Mais ces choses se sont produites afin que cette parole de l'Écriture soit accomplie. Je cite, « Ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. » L'évangéliste Matthieu, à plusieurs reprises, relate des événements en apportant cette même précision. Quelques exemples. Lors de l'annonce par l'ange à Marie du plan de Dieu, il est écrit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Puis lors de la fuite en Égypte, nous lisons « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et encore, lors du retour d'Égypte de la famille et de son installation en Galilée, je cite, « Et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. » Bien-aimé, ce que Dieu annonce arrive. Ce qu'il promet, il le fait. Alléluia. En entendant Jésus dire « J'ai soif », les soldats ont pris une éponge et l'ont trempée dans un vase plein de vinaigre qui se trouvait là. À l'aide d'une branche d'hysope, ils l'ont approchée de sa bouche. Et après avoir pris le vinaigre, Jésus a dit, je cite, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Bien-aimé, pour ce qui concerne notre salut, la part divine est faite. La foule, qui pourtant avait accueilli Jésus avec enthousiasme le jour dit des rameaux, ne savait pas ce qu'elle faisait lorsque, manipulée par les chefs religieux, elle a crié « Crucifie Jésus et relâche Barabbas !» Les Romains non plus ne savaient pas davantage ce qu'ils faisaient en le clouant sur la croix. Comme le déclare l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, à l'attention de la foule qui s'est rassemblée, intriguée et étonnée, suite à la manifestation produite par la venue du Saint-Esprit sur les disciples, ces choses, c'est-à-dire le choix de la foule et l'exécution de Jésus, ces choses sont arrivées conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. L'Écriture est très claire sur ce point capital, celui du salut de notre âme. En fait, le plus important qui existe dans la vie de tout individu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En fonction de cela, son salut est mis à la portée de tout homme, puisqu'il ne dépend pas de notre richesse ou de notre instruction, de notre couleur de peau ou même de notre religion. Il nous est tout simplement donné gratuitement. Je cite l'Écriture. Romains chapitre 6, verset 23, Bible français courant. « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Il se reçoit en croyant dans notre cœur et en confessant de notre bouche le nom du Seigneur Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Tout est accompli. Dieu a fait sa part. Et quelle part! Quel amour! Je cite encore l'Écriture. Romains chapitre 5, verset 8, Bible français courant. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Le salut n'est pas automatique. C'est une illusion que de penser, selon les termes d'une chanson populaire, je cite, « Nous irons tous au paradis ». Non, il n'en est rien. Il a fallu que le Fils de Dieu meure pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Le Seigneur ne nous impose pas sa grâce, il nous la propose, telle une main tendue vers nous. Voici ce que l'apôtre Paul a dit aux Athéniens. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent se repentir. Actes chapitre 17, verset 30. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Le brigand, meurtrier, mourant à côté de Jésus, a obtenu miséricorde parce qu'il a confessé son péché et qu'il a fait acte de foi en invoquant le Seigneur. Avant d'entendre la dernière parole prononcée par Jésus, écoutons une nouvelle page musicale. La dernière parole, la septième, va sceller l'œuvre expiatoire de Jésus que Jean-Baptiste avait présentée en ces termes, je cite, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Immédiatement après avoir dit « Tout est accompli », Jésus a dit, je cite, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc chapitre 23, verset 46. Et après avoir dit cela, Jésus expire. L'expression « rendre l'âme » ne viendrait-elle pas de ce fait? L'Évangile relate des faits survenus au moment de la mort de Jésus. En voici quelques-uns. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les tombeaux se sont ouverts, de nombreux croyants sont revenus à la vie. Le voile du temple s'est déchiré en deux, et cette précision très significative est donnée, je cite, « depuis le haut jusqu'en bas, comme si du ciel, des ciseaux divins mettaient un terme à cette séparation devenue caduque, car le voile du temple séparait le lieu saint où officiaient les sacrificateurs du lieu très saint où la présence de Dieu était matérialisé par l'arche de l'Alliance. La mort de Jésus nous assure maintenant une libre entrée dans la présence de Dieu. L'expiation de nos péchés s'est faite par le sang versé de Jésus. La justice divine a été satisfaite. Le péché a été sanctionné et la grâce abondante de son amour est maintenant offerte à tout pécheur qui se repent. Alléluia ! Il se trouvera toujours quelqu'un pour rétorquer que ces événements survenus lors de la mort de Jésus, tels que le tremblement de terre ou bien des rochers qui se fendent, ne sont pas choses exceptionnelles. Alors, le fait qu'ils se soient produits à ce moment précis est pour eux juste une coïncidence. Par contre, la résurrection d'un grand nombre de croyants au même moment où les rochers obturant leur sépulture se soient fendus est un fait unique. Une petite précision, il va sans dire, mais qui sera utile en la disant. Tous ces croyants revenus miraculeusement à la vie sont morts naturellement par la suite, tout comme cela avait été le cas pour Lazare, le frère de Marthe et de Marie, que Jésus avait ressuscité 4 jours après son décès. On pourrait en mentionner d'autres, tels le fils de la veuve de Naïn ou la fille de Jaïrus. Ces événements doivent nous interpeller et attirer notre attention sur ce mourant unique en son genre et dont les paroles ont fortement marqué les soldats, pourtant familiers de ce type d'exécution. Écoutons le témoignage rendu par ceux qui ont été les artisans de la crucifixion de Jésus. Je lis Matthieu chapitre 27, verset 54. L'officier romain qui supervisait l'exécution de 3 condamnés à mort, dont Jésus, dira, après l'avoir entendu expirer, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Les soldats de la gare dirent la même chose, effrayés par le tremblement de terre survenu au moment précis où Jésus a expiré. « Bien-aimé, permets-moi ce jour de te poser une question primordiale. Toi, que dis-tu de lui ? C'est pour toi que Jésus est mort. » Pour toi, pour moi, pour tout pécheur qui se reconnaît comme tel. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15, 19 et 20. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Bien-aimé, permets-moi d'insister, non par une sorte de curiosité qui serait malsaine, mais bien parce que ta réponse peut être déterminante au regard de la vie éternelle. As-tu fait la paix avec Dieu ? Jésus est-il ton sauveur ? À la différence de l'officier et des soldats romains qui ont été témoins de cette mort si particulière par les paroles qu'ils ont entendues, la foule est passée à côté de cet événement qui implique le monde entier. Je cite le texte central de l'Évangile. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, à Golgotha s'accomplissaient, entre autres, les paroles du prophète Ésaïe, celles citées au verset 7 du chapitre 25. Je lis, « Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. » La foule n'a pas compris ce qui se déroulait sous ses yeux. Ces gens qui se trouvaient rassemblés près de la croix étaient venus assister à un spectacle, de sorte qu'en voyant ce qui est arrivé, ils sont repartis en se frappant la poitrine de tristesse. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 48, Bible français courant. Comme une sorte de rendez-vous manqué, comme aveuglé, alors que l'actualité récente avait été si riche en émotions. La foule avait accueilli Jésus par des mots très forts, le jour dit des rameaux, je cite, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Puis, persuadée par les chefs des prêtres, elle avait demandé la mort de Jésus. Ces gens non plus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors à Golgotha, ils n'ont pas compris ce qui se déroulait sous leurs yeux. Hélas oui, ils sont passés à côté de l'événement. Même si la condamnation de Jésus était injuste, elle ne doit pas nous apitoyer sur son sort, car Jésus l'a souligné, sa vie. Personne ne pouvait la lui prendre, il l'a donnée de lui-même. Nous avons plutôt à nous lamenter sur notre condition de pécheur, de rebelle contre Dieu. Lorsque Jésus montait vers le lieu du supplice, des femmes pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Alors, Jésus leur a dit, je cite, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet, mais pleurez sur votre péché. » Cela s'appelle, oui, nous avons plus, femme de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet, pleurez sur pour vous et pour vos enfants. Oui, c'est bien, sur nous et sur notre péché que nous avons à pleurer. Cela s'appelle la repentance. Les larmes et la tristesse, la conviction de péché qui nous y amène sont suivies d'une grande paix et d'une grande joie. C'est celle du salut, car à ce moment-là, je reçois dans mon cœur le témoignage divin que je suis pardonné et sauvé. L'Évangile nous dit que le ciel pavoise quand un seul pécheur se repent et reçoit le salut de son âme. Bien-aimé, impossible de terminer cette émission sans mentionner que 3 jours après sa mort, au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Non seulement la tombe était vide, mais pendant 40 jours, Jésus va se montrer aux siens, leur donnant ainsi plusieurs preuves de sa résurrection. C'est là le gage que notre foi n'est pas vaine. Jésus est vivant et il va revenir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Avant de terminer, je précise que le texte de cette émission et l'écoute en replay sont disponibles sur le site web de FM Évangile 66, onglet message. Auteur Elios Michel, mardi à 10h. Et je signale à ceux que cela peut intéresser que vous pouvez trouver une émission du jeudi à 10h intitulée « À propos du salut ». C'est une radioscopie de ce plan d'amour divin ayant son apogée, si l'on peut dire, à Golgotha et au matin de Pâques. Bien aimé, juste un dernier mot. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu en ce jour, c'est que toi aussi, tu sois du nombre de ceux qui attendent son retour, parce qu'ils sont prêts pour cela. Amen.